Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, on a l'impression que notre Seigneur en fait exprès. Et de fait, il en fait exprès. Il dort. Et un autre évangile nous dit même qu'il dort sur un oreiller. Il a pris un oreiller, il se met dans le fond de la barque et il dort. Alors que c'est la tempête. La tempête, c'est normal. On peut dire que notre Seigneur a fait exprès également que ce soit la tempête, puisqu'il est le Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui arrive, arrive par lui. Il n'y a pas, nous dit-il dans l'Évangile, un seul cheveu qui tombe de notre tête sans que le bon Dieu l'ait voulu. Donc il n'y a pas une tempête sans que le bon Dieu l'ait voulu. Donc Dieu, Jésus qui est Dieu, fait une tempête. Et sur le lac de Génézareth, elles sont terribles, parce que comme le lac est petit, lorsque les vagues arrivent sur la berge, elles reviennent vers l'intérieur, et alors tout cela s'accumule, ça fait des vagues dans tous les sens, ce n'est pas des belles vagues comme dans la grande mer, c'est des vagues affreuses dans tous les sens. On est ballotté de tous les côtés. Et notre Seigneur a fait exprès d'emmener ses apôtres dans la tempête. Donc il veut une tempête, il emmène ses apôtres dans la tempête, et après les avoir emmenés, il dort. Il est évident qu'il fait là une leçon. Il est évident qu'il organise cela pour faire comprendre quelque chose. Et alors, les apôtres ont bien besoin de la leçon, parce qu'effectivement, ils n'ont pas compris. Et ne leur jetons pas la pierre, nous comprenons encore moins qu'eux. C'est pour ça que nous avons besoin de la leçon et que nous allons en profiter. Et alors, les apôtres se disent, mais c'est pas possible, il dort, nous allons périr. Comme si Jésus, quand il dort, cessait d'être le maître du monde. Et vous avez Jésus qui fait exprès de dormir pour leur montrer, avec plus de force encore, la leçon qu'il a à leur donner. Et alors les apôtres le réveillent. Seigneur, mais sauvez-nous, nous périssons. Ils ne disent même pas, nous allons périr, nous risquons de périr, ce qui aurait été normal avec Jésus-Christ. Seigneur, faites quelque chose, est-ce que c'est normal? Faut-il vous déranger ou vous laisse-t-on dormir? Non, non, c'est la catastrophe immédiate, nous périssons. Alors notre Seigneur se lève, il commande à la mer et au flot, il commande une parole, taisez-vous. Calmez-vous, du calme. Et la mer et les flots, comme un petit chien, bien gentil au pied de son maître, se calment immédiatement, et l'Évangile nous dit, il se fait un grand calme. Bien. Alors, nous croyons que la lutte dans la vie est exceptionnelle. Que la vie doit se dérouler comme un long fleuve tranquille. Et nous savons qu'à certains moments, ça n'est pas ainsi, il y a des tempêtes. Donc nous nous sommes mis dans la tête qu'il est normal de ne pas avoir de tempêtes, qu'il est exceptionnel d'en avoir. Et alors que c'est l'inverse. Il est normal d'avoir des tempêtes. Il est exceptionnel de ne pas en avoir. Parce que le calme définitif sera au ciel. Il n'y a qu'au ciel qu'il y a une paix parfaite. Ici-bas, sur terre, c'est toujours les difficultés. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre Seigneur est mort sur la croix. Parce que la vie sur la terre est une croix. Et Job, le saint homme Job, nous dit que la vie de l'homme est une lutte perpétuelle. Et c'est normal. Il y a un entraînement pour gagner le prix. On ne peut pas gagner, saint Paul le dit, on ne peut pas gagner la couronne si on n'a pas couru dans le stade. Et non seulement si on n'a pas couru, mais si on n'a pas couru le plus vite, en se donnant du mal. Et pour ça, il a fallu s'entraîner, et s'entraîner beaucoup, parce que pour une course de quelques minutes, il y a des semaines d'entraînement. Et alors, nous nous mettons dans la tête que puisque le coureur court avec facilité, il serait anormal qu'il se donne du mal pour se préparer, sauf exceptionnellement de temps en temps. Mais ce n'est pas vrai. Saint Paul nous dit que ce n'est pas vrai. Il faut lutter dans l'arène pour nous préparer. Et il est évident qu'à certaines périodes de l'histoire de la chrétienté, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait plus de calme. Et encore. Si vous faites l'histoire de l'Église, vous avez pratiquement 3 siècles de persécution jusqu'à Constantin. Ça reprend un petit peu avec Julien l'Apostat. Vous avez les barbares qui démolissent Rome. Vous avez les grandes invasions. Clovis, les Mérovingiens, on ne peut pas dire que ce soit le calme parfait. Ce ne sont que des guerres. Oui, il y a Saint-Rémy, il y a les évêques, il y a notre Seigneur dans la barque. On est tout à fait d'accord, il y a notre Seigneur dans la barque. Mais la barque est dans la tempête. Charlemagne, que nous fêtons aujourd'hui, Saint-Charlemagne, qui est particulièrement fêté en Allemagne. Charlemagne a passé sa vie à traverser l'Europe pour protéger l'Église contre les barbares d'Italie, contre les barbares d'Espagne et contre les barbares du Nord. Et quand c'était calmé d'un côté, l'hiver on battait un peu moins, mais on descendait et on faisait la guerre l'année suivante. Il passait sa vie, son temps à cela. Le Moyen-Âge sur lequel on rêve, parce que c'était la période des faste de l'Église. Les chrétiens n'étaient pas calmes, c'était les croisades, 11e siècle. Bien sûr, vous aviez des moines dans leurs abbayes, mais vous aviez les moines soldats poussés par Saint Bernard aux croisades. Les croisades se terminent par une défaite, et puis, neuvième croisade, Saint-Louis 1270. C'est la neuvième croisade qui est une défaite. Et puis, il y a peut-être un peu de calme dans l'Église, qui ne dure pas longtemps, puisque vous avez les morts qui font pression. Et puis à partir de 1517, alors c'est la grande lutte. Luther vient tout casser, mais tout casser. Je ne sais pas comment on peut trouver quelque chose de bon dans cet homme. C'est même pas un adolescent révolté. C'est pire encore. C'est un vrai Judas. Alors il casse tout, ce sont guerre de religion sur guerre de religion, faiblesse des rois de France, qui après avoir gagné la guerre, ménage l'adversaire. Et puis, la suite vous la connaissez, on ne s'en est jamais remis, la chrétienté était cassée, les francs-maçons sont entrés dans la brèche, c'était eux qui l'avaient faite pour cela. Ils sont entrés dans la brèche, et puis on arrive à la Révolution française, le 19e d'un siècle libéral dans lequel l'Église essaye de ne pas avoir trop de problèmes en Europe avec les gouvernements francs-maçons. Alors on part en colonie pour essayer de convertir les païens, ce qui est très beau, mais c'est pas la paix. Hein. Alors nous voudrions nous imaginer, et nous nous sommes imaginés, moi comme vous, que grâce à Mgr Lefebvre, grâce à la Fraternité Saint-Pédis, nous aurions enfin la paix. Des messes, des prêtres, des écoles, une protection absolue, parce que Mgr Lefebvre nous apporte toute la force de l'Église. Mais notre Seigneur a envoyé Mgr Lefebvre pour effectivement calmer la tempête, mais pas la faire disparaître. Pas, il y en aura d'autres. Une a été calmée, mais il y en a d'autres après. Et dans la vie individuelle, c'est la même chose. Les adultes ne se rappellent pas toujours la période de leur adolescence, qui est une période difficile de lutte, parce qu'on a des convictions et on ne sait pas comment les mettre en œuvre dans le monde qui ne les a pas. L'adolescence est une période difficile dans l'histoire d'un homme. Puis c'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois qu'il ne sait pas comment faire. Il a des convictions, parce qu'elles lui ont été données dans l'enfance. Il ne s'agirait pas de dire que l'adolescence est la période où on découvre les convictions, la vie. Non, ça c'était découvert dans l'enfance. Mais maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et puis après cela, si on se marie, alors c'est sacrifice sur sacrifice sur sacrifice. C'est une illusion de croire qu'on échappe au sacrifice de la vie religieuse en se mariant. C'est exactement l'inverse. On fonce dans les difficultés. Il y en a qui en ont besoin, mais on fonce dans les difficultés. Et vous avez la crise actuelle, la crise de l'Église, dans l'Église, la crise dans la société, la crise dans l'Église, la tempête de la société a fini par entrer dans l'Église, et la tempête de l'Église a fini par entrer dans la tradition, et la tempête de la tradition a fini par entrer dans la Fraternité Saint-Pédis. Mais c'est normal! C'est normal. Notre réaction doit être une réaction de confiance. Que ferons-nous? Nous n'aurons plus les prêtres, nous n'aurons plus la messe, nous n'aurons plus ceci, nous n'aurons plus cela. Et alors nous disons à notre Seigneur, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible, nous périssons. Et notre Seigneur nous dit « homme de peu de foi ». Et le mot est important. C'est une question de foi, c'est une question de vie intérieure, c'est une conviction, une question de convictions intérieures. Le chrétien vit de la foi. Le chrétien vit dans le monde, mais il ne vit pas du monde, il vit de Dieu. Le chrétien est au milieu de la tempête du monde, mais sa force est la force de Dieu. Et il faut que je vous dise un dernier petit mot, bien que ce sermon, je ne voudrais pas qu'il soit trop long, mais parce que il y a la scène de l'Évangile à ses limites, c'est un événement extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a chez le chrétien une vertu qui permet de recevoir cette force de Dieu. Dieu met dans le chrétien une force, elle n'est pas extérieure. Notre Seigneur ne donne pas sa force comme la maman prend le petit enfant par la main. Parce que la maman, elle est à côté du petit enfant, elle n'est pas en lui. Notre Seigneur donne la force comme la maman qui dit à son enfant qui pleure parce qu'il est tombé, « Enfin, tu es un homme. » Et l'enfant sait qu'il est un homme, et qu'il va devenir un homme, et qu'il veut devenir un homme. Alors, il lâche la main de la maman et il arrête de pleurer. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne nous prend pas par la main à l'extérieur, il agit en nous à l'intérieur. Et c'est la vertu d'espérance qui fait que lorsque notre Seigneur agit, nous recevons son action, ça pénètre en nous. C'est toute l'importance de la vertu théologale. Elle nous branche sur Dieu, elle nous connecte à Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes de peu de foi, parce que nous ne connaissons pas les vertus théologales. Et lorsque nous les connaissons théoriquement et nous en vivons mal. Et il faut développer en nous la vertu théologale. Et parce qu'elle a été oubliée, le bon Dieu nous met dans la tempête. Et si cela ne suffit pas, il y aura d'autres tempêtes. Pour que nous ayons foi en la puissance de Dieu, foi en la providence divine, foi dans le, bien plus que ça, dans la sagesse de Dieu qui fait des tempêtes pour nous former et pour nous faire gagner le ciel. La sagesse de Dieu est à long terme. Notre sagesse est à court terme, donc c'est une folie. Parce qu'une sagesse est à long terme. Et donc tout va bien. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas la foi, qui vont périr parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais pour nous, tout va bien. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est notre foi par laquelle nous allons les rattraper. Alors, évidemment, il nous semble que la situation est telle que là, c'est trop. L'Église ne pouvait pas tomber si bas. Donc, notre analyse n'est pas bonne, l'Église n'est pas tombée. Mais si les hommes sont tombés et ils cherchent à faire tomber l'Église, c'est la tempête. C'est ainsi. Il suffit de voir. Le bon Dieu nous a donné un pape, François, providentiellement, pour nous montrer que la tempête fait des vagues et qu'elle éclabousse. Alors qu'avant, nous avions eu des papes, nous avions eu un Benoît XVI qui faisait beaucoup moins de vagues, qui agitait au fond de la mer, mais il n'y avait pas encore les vagues. Maintenant, les vagues, on les a, on est dedans. On est complètement dedans. Et il bénit les ennemis de l'Église, et il bénit le Coran, et il soutient tous les ennemis de l'Église. Et ce sont vagues sur vagues sur vagues. Et pourtant, nous conservons la foi, et nous conservons l'espérance, et nous conservons l'amour de Dieu, qui s'appelle charité. Et nous savons que Dieu est sage, et nous savons que Dieu est bon dans sa sagesse. Il n'y en a qu'une qui ne s'est jamais inquiétée, c'est la très sainte Vierge. Jamais. Vous ne voyez pas la sainte Vierge dans l'Évangile une seule fois s'inquiéter. Si, elle s'inquiète une fois lorsqu'elle a perdu Jésus. Mais la leçon lui a suffi. Elle n'a pas fait de faute. C'est faute, la Sainte Vierge n'a jamais péché, jamais fait une faute. Mais elle a été une maman, comme toutes les mamans, elle s'est inquiétée. Et ton père et moi, plein d'angoisse, nous te cherchions, pourquoi tu fais cela? Mais pourquoi vous cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Alors la Sainte Vierge l'a retenu cela. Après ça, vous ne la voyez plus jamais s'inquiéter dans l'évangile. Puis elle ne s'est pas non plus beaucoup inquiétée avant cela, dans tous les mystères joyeux. Et c'est pour ça que, en ce centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, nous devons particulièrement nous confier à elle, nous consacrer à elle. Parce que le bon Dieu a eu cette grande bonté de nous donner une maman qui, avant de nous dire « tu es un homme », nous commence par nous prendre par la main. Et quand elle nous a pris par la main, quand nous avons accepté de nous laisser prendre par la main, alors la maman peut nous dire « allez, tu es un homme ». C'est pour ça que le bon Dieu a fait les mamans, et c'est pour ça que le bon Dieu a fait la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.